Nous allons poursuivre notre série sur servir mon église locale. Et ce sera le moment de clôturer aujourd'hui avec la première sous-question que nous nous sommes posée, qui était de savoir qui peut servir dans l'église locale. Qui ? Donc nous étions encore sur cette question-là, qui peut servir ? Nous continuerons prochainement avec « Mais en quoi consiste ce service ?» Mais d'abord, nous avons encore deux petites choses pour terminer la question de qui peut servir dans l'église locale. Prions. Nous nous recommandons à toi, notre Dieu, parce que la tâche que nous voulons faire et nous voulons construire ensemble n'est pas une tâche humaine. Elle n'est pas liée à nos capacités, elle n'est pas liée à nos intelligences, c'est pas lié, Seigneur, à notre chair. C'est une tâche spirituelle, c'est une tâche qui nous dépasse, c'est une tâche dont toi tu es le Seigneur, le conducteur, le directeur. Alors nous voulons nous mettre en phase avec toi à travers ta parole, nous voulons être, Seigneur, le plus juste possible dans la compréhension de ce que nous avons à faire pour toi. Alors par le Saint-Esprit, éclaire-nous à travers ta parole. Rends-nous aussi capables d'être tes serviteurs et tes servantes dont tu es fier. À l'instar de comment tu as dit avec Job, as-tu vu mon serviteur Job? Que nous soyons nous aussi de cette hauteur-là, de cette trempe-là, de cette catégorie-là. Nous te le demandons parce que tu peux rendre cela possible au nom de Jésus. Amen. Alors, servir mon église locale, c'est important. C'est important, comme je l'ai dit la fois passée, parce que nous ne sommes pas là que pour venir nous voir, être content de nous voir. Bien sûr, je suis très content de voir mon ami Mathieu. Chouette. Mais voilà, nous sommes là pour nous voir, certes, mais nous sommes là pour travailler. Pourquoi ? Parce que l'église, je rappelle encore, l'église n'est qu'un moyen de grâce que Dieu a mis en place pour le salut de l'humanité. Ce n'est que un lieu visible à partir duquel des âmes vont être gagnées. C'est ça l'Église. Regardez dans Actes chapitre 4, à partir du verset 27, quand Pierre se met à parler. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens, quand ils disent « Hommes frères », ils sont bouleversés, ils sont dépassés, ils disent « Mais hommes frères, que ferons-nous » Parce qu'ils sont touchés par le message que Pierre annonce. Qu'est-ce que Pierre leur dit? « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Vous recevrez ainsi le don de l'Esprit, etc. » Et puis, qu'est-ce que le texte dit? Tous ces gens-là se sont fait baptiser et ils sont allés rejoindre l'Église. Pas pour juste être comme une espèce de parc à troupeau. Là, vous savez, les parcs à troupeau, on parque les animaux et voilà, débrouillez-vous. Non, ils sont là parce qu'ils vont apprendre à persévérer à quoi? Dans les enseignements des apôtres, à prier, à etc., etc. Pourquoi? Pour sortir avec cet équipement-là, ce bagage-là et aller gagner des gens, pour ramener des gens à l'Église. L'Église est un moyen de grâce. C'est un véritable laboratoire, un véritable lieu de travail et de formation pour les âmes perdues de l'extérieur. C'est la mission principale de l'Église. Et nous sommes là, nous sommes les éléments par lesquels cela est possible. Pas seulement dehors au sens des gens que je rencontre dehors, que je ne connais pas, mais dehors, dans le sens aussi de notre propre famille, ceux qui ne sont pas chrétiens dans la famille, et dont nous avons le travail de conduire à Christ, dans notre entourage, dans notre travail, dans les différents endroits où on se trouve, c'est notre tâche. Et nous avons à nous équiper aussi. Mais évidemment, puisque l'Église, c'est le lieu dans lequel on est formé, ça veut dire qu'il y a aussi une vie dans l'Église, une je dirais, entre guillemets, organisation dans l'Église. Bien sûr, je prends un exemple d'un restaurant. La finalité d'un restaurant, c'est de servir les clients. Vous êtes d'accord? On n'imaginerait pas un restaurant qui ne sert pas les clients. Vous êtes d'accord? Mais pour que le service des clients soit assuré, il y a toute une organisation qui doit se mettre en place. Vous êtes d'accord? Non. Je suis en train de parler chinois. Oh, pardon s'il y a des Chinois qui me pardonnent. Donc, il y a toute une organisation qui doit se mettre en place pour que les clients soient reçus, soient servis correctement. Il faut des cuisiniers, il faut des plongeurs, comme moi j'en ai fait dans mon passé. C'est gai ce boulot-là quand tu entends le cuisinier te crier « Maintenant, il me faut la casserole numéro 7 !» Ou quand il te dit « Il te faut la poêle numéro 14 !» Vous savez, tout ça, pour le cuisinier, c'est important. Hein, la poêle 14, donc tu ne peux pas faire une tel type de sauce avec ça. Attention, c'est un métier précis. Hein. Bon, enfin... Je ferme la parenthèse vite parce que là, je sors de faire une digression. Mais je voulais dire, un resto, il y a de l'organisation à l'intérieur pour être efficace, pour accueillir les clients et servir correctement les clients. C'est la même chose avec l'église. Il faut une organisation à l'intérieur, une formation, que les choses se fassent aussi à l'intérieur pour justement permettre que nous soyons équipés et si jamais il y a des gens de l'extérieur qui viennent, qu'on puisse les recevoir et puisse aussi les faire grandir comme nous, nous grandissons spirituellement. Et tout ça, c'est ça le service. C'est ça le service. Nous sommes à la fois toujours en train de servir et d'apprendre à servir. Nous sommes toujours en train de servir et de grandir spirituellement. Tout ça, c'est lié, mes frères. C'est lié, mes sœurs. Grandir spirituellement et servir, ça va ensemble. Vous voulez grandir spirituellement, servez. Vous voulez servir, oui, ça vous permettra de grandir. C'est lié. Les gens qui se mettent en retrait et qui ne veulent pas servir dans l'église, ils ne grandissent pas non plus spirituellement. Parce qu'on grandit comment? On grandit en étant de plus en plus proche de Dieu et on grandit de plus en plus en servant Dieu. Alors, deux points ce matin pour terminer la question de qui peut servir l'église. Deux points. D'abord, nous allons voir le premier point qui est qu'un serviteur de Dieu, il doit toujours continuer à se former. Il doit toujours continuer à grandir, à progresser. C'est-à-dire que si tu sers, tu dois toujours te préoccuper de savoir où j'en suis moi avec ma marche spirituelle. Où en suis-je avec la sanctification ? Où en suis-je avec la consécration? Où en suis-je avec l'engagement? Où en suis-je avec le service en soi avec les autres? Où en suis-je avec ma lecture de la parole de Dieu? Où en suis-je avec ma vie de prière? Où en suis-je avec ma manière de communiquer, de parler de Dieu autour de moi? Et je dois viser de progresser, d'aller de l'avant, de toujours faire plus, faire mieux, aller toujours plus en avant. Je dois me préoccuper de me former moi-même, de me préoccuper de lire des livres s'il le faut pour grandir, de me préoccuper d'aller chercher quelqu'un qui peut m'aider à grandir spirituellement. Mais je ne peux pas, en m'asseyant, dire je vais servir le Seigneur, mais je ne regarde pas beaucoup à ce que je deviens. Je suis quelqu'un qui jure facilement, quelqu'un qui insulte facilement, qui dit facilement des grossièretés, qui s'énerve facilement, mais c'est pas grave, je peux rester comme ça, je vais juste servir. C'est pas important finalement, et c'est important que je m'énerve. Non, je peux m'énerver, je peux rester comme ça, je peux garder mon sale caractère et servir. Non, 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 non. Pendant que je comprends et je travaille à devenir serviteur, je dois aussi travailler sur moi-même. Je dois aussi acquérir les qualités spirituelles que Dieu me demande d'avoir. Le caractère. À travers le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la maîtrise de soi. Beaucoup de gens n'ont plus de maîtrise de soi. La tempérance. La recherche de tout ce qui est calme. On calme la situation. On recherche ce qui fait que les choses ne sont pas dans la brutalité, la douceur, le refus de la violence, le refus d'entrer dans le cycle de violence. De nos jours, la violence est devenue quelque chose de quotidien avec nous. Quand ce n'est pas la violence physique, c'est la violence verbale. Et quand ce n'est pas la violence verbale, c'est la violence psychologique. On est constamment dans le cycle de violence. Mais ce n'est pas un caractère qui sied à un chrétien. Pas du tout. Ce n'est pas conforme à l'Esprit de Dieu. La paix. Quelqu'un d'extrêmement pacifique. Qui recherche toujours la solution de paix. Il y a des gens qu'on va chercher dans le monde, parce que quand ce gars s'assoit et il se met à parler aux gens qui sont en guerre, les gens font la paix. Mais pourquoi ce n'est pas les chrétiens qui font ça? Pourquoi c'est les autres gens qui doivent faire ça? C'est nous qui devions faire ça. D'abord entre nous, et puis avec le monde. Vous voyez, il y a un caractère chrétien à forger et à construire. Il y a, deuxième chose, un ensemble de connaissances. C'est quand même étonnant que des chrétiens, ça soit le monde qui leur enseigne certaines vérités bibliques. Certaines choses qui concernent des doctrines sur le salut, sur l'homme, sur la femme. C'est le monde qui doit nous dire comment nous devons penser ça. Non, nous devons apprendre à développer notre connaissance. Nous devons connaître ces choses-là. Et c'est la Bible qui nous aide. Nous avons la centrale biblique. Ici, dans notre église, hein, les amis, la centrale biblique, mes amis, est ici dans cette église. Ça veut dire que nous avons des bouquins à la portée de la main pour lire, pour étudier. Ceux qui ont du mal avec ça, venez me voir. Je vous ferai toute une liste de livres que vous pouvez lire, toute une liste de cadres. Mais vous devez vous former. Vous devez avoir du bagage. Vous devez avoir un cadre, un bagage spirituel. Je sais des choses. Troisième domaine, il y a le caractère, il y a la connaissance, mais il y a aussi la compétence. C'est ce que nous faisons avec ce message sur servir mon Église. C'est vous rendre capable de servir, vous faire acquérir la compétence. Comment on devient compétent pour un travail? Il faut d'abord le connaître. Si vous ne connaissez pas un travail, on ne va pas vous on va pas évaluer votre compétence puisque vous ne connaissez même pas comment on fait ça. On apprend d'abord en quoi consiste ce travail-là. Et puis, une fois qu'on a appris en quoi consiste ce travail-là, alors maintenant, on peut être évalué et on peut grandir dans la compétence. Et justement, pour servir mon Église, pour travailler dans mon Église, j'ai besoin d'abord de savoir qui peut servir dans l'Église. Et c'est ce sujet-là sur lequel nous sommes. Se former, c'est le premier point. Le premier point qui est important parce que le serviteur de Dieu est d'abord et avant tout un disciple de Jésus-Christ. Vous savez c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements et, plus encore que les enseignements, la vie d'un maître. Tout disciple doit reconnaître un maître. C'est pas normal si on est disciple, on n'a pas de maître. Et donc, tout disciple, c'est celui qui est à l'école d'un maître. Et donc, il faut savoir identifier qui est votre maître. C'est-à-dire la personne devant, au pied duquel vous êtes pour pouvoir apprendre. Bien sûr, la réponse, elle est simple pour nous les chrétiens. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à travers sa parole. Nous ne voyons pas Jésus, mais nous avons sa parole qui fait autorité dans notre vie. Nous, les protestants, nous disons que nous reconnaissons la Bible comme étant l'autorité en matière de foi et de vie. 2 Timothée 3,16. Vous connaissez ce texte, hein? 3,16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et ça sert à quoi? C'est utile à quoi? Enseigner, convaincre, c'est-à-dire que je peux me tromper. Je peux arriver à ne pas être sûr. Eh bien, la parole de Dieu me donne des certitudes, des convictions. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas des gens de convictions, alors que les politiciens sont des gens de convictions. Regardez un gars du MR, Regardez un gars du PS, il est convaincu de ses idées, hein. Et il les défend, hein. Et nous, nous sommes là en train de nous dire, de piaffer derrière, dire, ah, menteur, 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 menteur. Mais lui, il est convaincu de ses idées, hein. Les chrétiens doivent être des hommes et des femmes de conviction. Pour corriger. On peut se tromper. On peut croire que le chat là que j'ai vu, il était gris, alors que franchement, c'était dans le noir, il était pas gris. Il était blanc. C'est la lumière qui était un peu tamisée là qui m'a fait croire que c'est gris. Je peux me tromper. Ça veut dire que je dois être prêt à accepter qu'on me fasse changer mon avis. Bible à l'appui. Je dois accepter de reconnaître que quelqu'un peut me dire « Tu t'es trompé. Ce que tu penses, ce n'est pas juste. Tu dois réformer ta pensée, ta façon de penser. » D'ailleurs, dans d'autres textes, on ne dit pas « corriger », on dit « réformer ». Tu dois réformer, tu dois revoir ta façon de voir pour adapter ça à la pensée biblique. Pour instruire dans la justice, c'est-à-dire donner des instructions. Dire « Voilà ce que tu dois faire. Ça, 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 ça. » Parfois, c'est important de dire des choses pour que la personne, le disciple, sache les choses qui doivent l'attendre, qui doivent faire petit à petit. Parfois, on est obligé de dire, tu dois faire ça, 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 ça précisément. Instruire dans la justice, instruire dans la pensée de Dieu, dans ce qu'il y a à faire pour Dieu. Le but, pourquoi on fait tout ça? Et à quoi sert la parole de Dieu? Le but, verset 17, c'est parce qu'on veut que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous avez remarqué? Il ne dit pas l'enfant de Dieu. Vous avez remarqué ça? Il dit l'homme de Dieu. Ou la femme de Dieu. Pourquoi dit-il l'homme de Dieu? Parce qu'il sous-entend que grâce à l'Écriture, nous pouvons grandir de la phase de petit enfant, du bébé, à la phase d'homme, de femme. C'est-à-dire, nous pouvons atteindre la maturité spirituelle grâce à la parole de Dieu. On peut se former et on doit se former avec la parole de Dieu. Deuxième chose pour qui peut nous former aussi et qui peut faire ainsi progresser un serviteur, c'est la vie de prière. Je ne vais pas trop parler avec ça parce que nous avons déjà largement dans cette église parlé sur la prière. Et ce qui nous reste à faire, ce n'est plus les discours, c'est commencer à prier. Vous comprenez la différence? Nous avons déjà toute la théorie, mais il nous reste simplement de commencer. Comment est-ce qu'on apprend à prier? Vous savez, non? Comment est-ce qu'on apprend à prier? En priant. Point barre. Il faut le faire. Il faut agir. Troisième chose, l'encadrement spirituel. Quand j'étais plus jeune spirituellement, je courais après des gens qui connaissaient plus que moi pour qu'ils m'apprennent. Un jour, j'ai même fait une bêtise. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais intéressé par les questions du Saint-Esprit à l'époque. Et j'étais vraiment, à l'époque, c'était tout au début de ma foi, j'avais quoi, 16, 17 ans. Et je suis allé voir avec un copain à moi qui est au Canada, on en rit encore aujourd'hui, on est allé voir un prédicateur itinérant, un type qui connaissait bien les histoires du Saint-Esprit, machin, comme ça. Et je suis allé lui demander, c'est quoi le baptême de l'Esprit, je ne sais pas comment on appelle ça, le baptême dans l'esprit, là, le truc où on prie pour peut-être commencer à parler en langue, des choses comme ça. Là. Et puis nous sommes allés écouter le gars. Le gars nous a parlé pendant 45 minutes de l'enfer, du diable. Il nous a décrit toutes les horreurs en rapport avec l'enfer, avec le diable. Et après, il nous dit, bon, maintenant vous êtes prêts, je vais vous baptiser dans le Saint-Esprit. Devinez ce qu'on a fait. Oh non, 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 non. Et on est parti. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait avoir avec ces gars. Voilà. Mais ça, c'est juste une histoire. Mais ça faisait partie de ma réalité que de chercher à comprendre, à aller plus loin et ne pas m'arrêter simplement. Heureusement pour moi, sur mon chemin, Dieu m'a donné des gens, des aînés au niveau spirituel, qui ont écouté ce que je cherchais. Je leur ai dit, je cherche, mais je ne sais pas très bien, je ne sais même pas qu'est-ce que je cherche. Je sais que je dois grandir spirituellement, mais je ne sais pas. Et ils m'ont aidé. L'un m'a dit, voilà, écoute, je t'offre une Bible, Thomson, regarde la chaîne des références. L'autre m'a acheté un dictionnaire biblique, l'autre m'a acheté une encyclopédie, l'autre m'a conseillé, on est passé du temps, on a parlé, etc. Et toutes ces choses ont commencé à forger ma connaissance et ma maturité spirituelle. Reconnaissez les gens qui peuvent vous aider. Cherchez-les. Et laissez-vous enseigner pour grandir. Laissez-vous guider. Soyez pas des contestataires, des gens qui connaissent tout et qui d'avance, quand on commence à dire « Ah, mais je sais, laisse-moi tranquille !» Non, mais être à l'écoute, accepter l'encadrement. Un bon disciple apprend en observant ce que fait son maître et en l'imitant. C'est pour ça que Paul dit souvent « Soyez mes imitateurs ». Les imitateurs de Paul, je suppose qu'ils prient comme Paul, ils prêchent comme Paul, ils parlent comme Paul, etc. Jusqu'au moment où ils ont leur propre assise pour aller de l'avant. Et il faut beaucoup d'humilité et un sens d'obéissance qui soit nécessaire pour pouvoir avancer. Avoir un maître, avoir un encadrement, ce n'est pas nécessairement avoir physiquement quelqu'un qui est tout le temps là. On peut avoir un maître à penser, par exemple. Quelqu'un qui nous inspire très fortement. Je sais, par exemple, je ne vais pas citer quelqu'un ici, mais quelqu'un qui aime, par exemple, le pasteur de Philippe, comment s'appelait là? Voilà, il y a des gens qui aiment beaucoup Florent Varac et qui suivent les choses de Florent Varac. C'est une manière d'avoir un maître à penser. Moi, je suis un fan d'Alfred Kuhn. Je mange tout ce qu'Alfred Kuhn a écrit. Voilà, parce que pour moi, il m'inspire. C'est, il me porte dans ma c'est un maître à penser pour moi, c'est comme ça. Chacun peut avoir aussi un maître, pas nécessairement quelqu'un qui est physiquement là, mais quelqu'un qui est même loin, à travers les livres, à travers autre chose. Mais ne soyons pas tout seuls à nous débattre dans notre façon de grandir. Deux manières donc de se former pour un serviteur. Il se forme par lui-même, je viens de le dire, évidemment en mettant Dieu au centre, en priant beaucoup et demandant que Dieu le guide dans tout ce qu'il fait, mais aussi il peut se former par les autres, c'est-à-dire quelqu'un, un encadrement, quelqu'un qui vient l'aider à aller de l'avant. Ça, c'est une première chose que j'aimerais dire. Quand je suis serviteur, je ne dois pas oublier de continuer à me former, à grandir personnellement, à aller de l'avant personnellement. Deuxième chose, servir Dieu n'est pas une tâche facile. Beaucoup de gens recherchent de servir Dieu dans l'église. Je veux être ancien, je veux être pasteur, je veux être diacre, je veux être responsable de la musique, je veux être ceci, je veux être cela. Servir Dieu, ce n'est pas une tâche facile, parce qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est exposé. Exposé, et lui et sa famille, ils sont exposés à quoi? Le Seigneur de Dieu est exposé à la souffrance. Il est exposé à l'humiliation. Il est exposé au rejet. Il est exposé à la trahison. Il est exposé à la déception. Il est exposé à tout un tas de choses pour lesquelles il faut être armé, pour lesquelles il faut être prêt. Beaucoup de gens se précipitent, je vais être pasteur, mais vous connaissez tout ce que le pasteur a comme fardeau dans son cœur. Des choses qu'il sait qu'il ne peut pas dire. Alors que c'est dégueulasse, c'est injuste, c'est pas bien. Mais il ne peut pas dire. Il ne peut pas. Parce qu'il sait que s'il dit, il fait œuvre de destruction 10 fois plus. Servir n'est pas une chose facile, mes amis. Et on est très exposé à la souffrance, à la haine, aux humiliations. C'est pourquoi le modèle de Jésus, comment est-il présenté dans Ésaïe 53? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est méprisé, rejeté, il est frappé pour les péchés de son peuple. Nous avons détourné de lui notre visage. C'est ça, le serviteur de Dieu. Un autre encore qui marche selon le modèle de l'apôtre de Jésus, c'est l'apôtre Paul. On va lire quelques extraits ici. Ça vaut toute une prédication, ces textes que je vais vous proposer maintenant à la lecture. C'est très très précieux, mais je les prends à titre d'illustration simplement. Je vais pas beaucoup les commenter. Donc tu as d'abord 1 Corinthiens 4, de 1 à 4. Regardez comment l'apôtre Paul parle. Il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, on avait déjà dit ça. On a déjà trouvé que parmi les qualités qui doivent caractériser un serviteur, il y a la fidélité. Pour moi, peu importe, fort d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, je ne me juge pas de moi-même non plus, car je ne me sens pas coupable en rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Le serviteur n'a pas des comptes à rendre aux humains. Il a des comptes à rendre à Dieu. Et c'est plus grave, mes amis. Il faut avoir plus de crainte de ça que des humains. Les humains, ils vont me faire quoi? Ils vont me faire quoi? Mais Dieu! Dieu! On continue. Toujours dans le même texte. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. C'est comme ça que les gens regardent les serviteurs. Vous êtes sages en Christ, okay? Mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus les balayures du monde, les rébus de tous, jusqu'à maintenant. C'est ça un serviteur. Je ne commente pas sur les textes très précieux, mais le temps nous manquerait d'entrer dans la profondeur de ce qui est là. Encore un autre groupe de textes. 2 Corinthiens cette fois-ci, toujours 4 de 1 à 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Il n'y a pas de fraude. On ne cherche pas à frauder. Et mes amis, le jour où un serviteur de Dieu fraude, il est foutu. Ça se saura et ça altère complètement son ministère. C'est terminé pour lui. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous essayons d'être le plus juste possible avec la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Parce que la vérité, je ne peux pas vous l'imposer. Le serviteur n'impose pas la vérité. La vérité est à prendre, et à prendre selon votre conscience. Donne-moi encore le reste, comme ça on termine avec ça. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné et abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en vous, et la vie agit en vous. Pardon, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Servir Dieu n'est pas facile. Ne le prenons pas comme une tâche facile. C'est trop facile. Beaucoup d'entre nous se plaignent. Pourquoi? Parce que l'autre là, il a mis ça ici. Il ne devait pas mettre ça là. Il devait mettre ça ici et on se fâche. On est prêt à se taper dessus. Ça représente quoi ça? Servir Dieu n'est pas facile. Parce que ça demande beaucoup de nous. Ça demande beaucoup de nous-mêmes. Qu'on prenne beaucoup sur nous. Qu'on soit écrasé. Qu'on soit maltraité, qu'on soit méprisé. Ça demande qu'on prenne ça sur nous à cause de Christ. Si vous êtes prêt à ça, vous êtes prêt à servir. Mais si vous êtes là à défendre votre petite personne, on doit me respecter. Moi je pense que vous devez écouter ma voix. On n'est pas prêt à servir. On n'est pas prêt à servir parce que ce qui nous attend est difficile. Mes frères, imaginez que ça... C'est le contexte normal du service. Imaginez maintenant ce que ça pourrait être dans la période de persécution. Ça peut être quoi ça? Il y a des pasteurs qui meurent simplement parce qu'ils ont voulu appliquer bêtement ça dans la période de persécution. Et ils en meurent. Servir Dieu donc, mes amis, est un travail qui nous porte. Je ne vais pas faire un schéma triste ici. Tout d'un coup, les gens vont dire, oh, dans ce cas, moi, je vais plus servir Dieu. C'est fini, moi, je laisse tomber. Non. Premièrement, vous ne pouvez pas laisser tomber parce qu'enfant de Dieu, vous faites partie de l'entreprise familiale. Je vous l'ai dit. Donc, vous ne pouvez pas échapper au travail. C'est un peu comme l'enfant qui connaît le risque du travail qu'il a à faire à la maison et qui dit à ses parents, moi, je ne vais pas travailler. Non, non, t'es mon enfant. Allez, hop, en avant. Bosse. On ne va pas échapper. Alors, donc, de toute manière, on va travailler. Mais ce qui est bien, vous avez remarqué, ils sont pressés de toutes parts, mais ils ne sont pas perdus. Ils sont parfois découragés, mais jamais abattus. Ils sont comme ce roseau qu'on essaye de plier, mais qui revient sur sa position. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force du Christ. J'ai découvert dans mon travail personnel que plus on accepte d'endurer des souffrances pour Christ, plus Christ nous donne la force. D'où est-ce que Jésus a trouvé la force d'aller jusque à la croix alors qu'il en avait peur à Gethsémani, alors que des grumeaux de sang descendaient sur lui? Les anges sont venus, ils l'ont fortifié. Et il a pu avoir le courage de poursuivre l'entreprise. Plus nous nous engageons à cela, plus Dieu nous fortifie. Plus Dieu nous bénit. Plus Dieu nous comble. Mais nous sommes dans la vraie voie. Nous sommes sur le bon chemin. Vous remarquerez une chose. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, c'est ça la motivation de notre travail. Nous travaillons, nous servons parce que nous aimons Dieu. Et cet amour nous amène à être passionnés de Dieu. Voyez l'apôtre Paul, il s'impose de servir Dieu, non pas selon ses règles à lui, pourtant l'apôtre Paul est un homme très intelligent, mais il ne sert pas Dieu selon les règles, ses règles à lui, mais selon les règles de Dieu. Il ne cherche pas ce que les hommes le voient, qu'ils soient honorés, qu'ils reçoivent des titres de gloire, non. Mais il cherche plutôt à ce que Dieu soit glorifié dans ce qu'il fait. Ça veut dire que parfois tu n'apparais pas, les gens ne savent même pas que c'est toi qui as fait ça. Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Plus encore, je n'ai pas dit dans ce texte ici, mais vous savez que pour Paul, sa vie terrestre ne valait pas la peine. En tout cas, elle ne valait pas la peine sans Christ. Pour lui vivre, c'est Christ. Mourir aussi, c'est Christ. Alors, je voulais qu'à la fin de ce parcours, je puisse partager ceci de tout mon cœur pour que tous ceux qui vont être appelés à servir, Et chaque fois qu'on vous appellera à servir dans l'église, vous ayez ces pensées-là. Vous soyez pris par ça. Que vous sachiez que ce n'est pas une affaire entre moi et vous, entre les anciens et vous, entre l'église et vous. C'est une affaire entre vous et Dieu. Vous et Dieu. Vous êtes correct parce que vous voulez être correct devant Dieu, pas devant les hommes. Vous faites de votre mieux parce que vous le faites pour Dieu, pas pour un homme. Eh bien, nous avons du pain sur la planche. Vous êtes d'accord? Nous avons du pain sur la planche pour travailler. J'aimerais bien que chacun de nous prenne un engagement devant Dieu. Un engagement à servir Dieu. Vraiment. Selon les règles bibliques. Selon la pensée biblique. Je vais vous demander à chacun. Je sais que le temps passe, hein, excusez-moi. Mais je voudrais juste vous demander à tous ceux qui, ce matin, ont bien compris ce que ça signifie, tout ceci. Je vais juste prendre 30 secondes de silence. Je vais vous demander de réfléchir et de prier. Si c'est votre engagement, simplement dire, Seigneur, avec ton aide, avec ta grâce, je veux te servir. 30 secondes. Bien, je termine. À la suite du Seigneur et de sa parole, dans notre Église, nous allons rechercher des serviteurs zélés, c'est-à-dire des gens qui sont ardents, qui veulent servir le Seigneur, des travailleurs sérieux et chevronnés, pas des gens qui vont nous abandonner sur la route, des serviteurs fidèles. C'est-à-dire des gens sur qui on peut compter toujours. Des gens qui sont responsables de leur timing, de leur temps. Qui ne peuvent pas dire sur qui on ne va pas être tout le temps surpris. Il a dit qu'il va venir, mais il n'est pas venu. Il a dit qu'il fera telle chose, mais il ne l'a pas fait finalement. Non, des gens qui savent ce qu'ils disent, qui donnent leur parole et qui le respectent. Des gens qui disent « je vais faire ça » et qui le font. Des gens fidèles qui font ce qu'on leur demande. Pas c'est que eux ils ont envie, pas comme ils ont envie, mais comme on leur demande. Nous rechercherons des bons serviteurs, des gens qui ont une bonne disposition de cœur. Pas des contestataires, des révoltés, mais des gens qui sont faciles à vivre, qui cherchent à faciliter la vie, qui sont là pour trouver des solutions et pas pour créer des problèmes. On recherchera aussi des personnes humbles, qui ont le sens du devoir accompli, qui ne sont intéressées que d'abord pour faire leur travail, et qui ne s'occupent pas de commencer à regarder à gauche, à droite, qui a fait, qui n'a pas fait, qui ne joue pas au monsieur le directeur. On recherchera des gens qui sont passionnés de Dieu, qui veulent que leur service soit marqué dans l'histoire de leur vie, de leur relation personnelle avec Dieu. Voilà. Nous aborderons prochainement donc la notion du service. Et nous le ferons prochainement avec la grâce de Dieu. Que ce partage nourrisse votre cœur, vos réflexions, votre engagement aussi vis-à-vis du Seigneur. Je vous rappelle que nous avons un site internet sur lequel ces enseignements sont enregistrés. Si vous voulez réécouter, ce serait peut-être bien. Alors, si vous allez sur le site, il y a aussi la prière. Je pense que Richard a mis tous les enseignements sur la prière ensemble. Vous pouvez aussi réécouter ça si vous voulez aussi apprendre un peu plus et grandir un peu dans la conception de la prière. Il y a aussi sur l'Église. Je vous invite à réécouter sur l'Église parce qu'on parlera brièvement de ça prochainement et nous allons avancer de la sorte. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'ancrage biblique de la notion de servir. Aide-nous à être ces serviteurs et ces servantes qui travaillent pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.